Donc nous allons plonger donc dans la bande dessinée Son Double. Et peut-être commencer ouais, par
je bien commencer.
Question, Frédéric.
Comme on avait discuté tout à l'heure, on aurait bien aimé que tu nous parles de ce travail de thèse en art plastique sur la bande dessinée, que tu nous expliques un peu comment fonctionne une thèse en art plastique et pourquoi tu as choisi de faire une thèse en art plastique sur la bande dessinée à la place de faire un ouvrage simple, en fait, qui aurait pu être un livre théorique qui occuperait la même fonction.
Ben, si c'est une thèse, c'est déjà que j'avais commencé ce cursus universitaire avec un mémoire de maîtrise en 88, qui était déjà sur le même sujet. Et si ça parle autant de moi, c'est qu'il faut savoir que dans le cursus art plastique, on doit se baser sur sa propre pratique et accomplir une sorte de dialectique entre la pratique et la théorie. C'est le cursus qui veut ça. C'est donc pour ça que je suis mon propre sujet dans ce livre, cette thèse. Et si j'ai plutôt tenu à aller jusqu'au bout de la thèse plutôt que de faire un livre parti de rien théorique, c'est que j'avais besoin d'un retour pour arriver à accomplir ça. Et donc le retour que m'ont donné mon directeur de thèse et les membres du jury et mes lecteurs ont fait que j'ai pu aller jusqu'au bout. Sinon je pense que j'aurais eu beaucoup de mal, et j'aurais eu aussi beaucoup de mal de faire un livre qui ressemble quand même parfois à ma vie, mon œuvre, sans ce contexte-là, sans être un petit peu soutenu par un cadre solide que m'a donné l'université. Et c'était aussi une façon de remercier le cursus Paris 1 Saint-Charles, dans lequel j'ai commencé en 83 et qui m'a beaucoup apporté, étant arrivé là-dedans comme un monomaniaque de la BD et en étant sorti avec une vision un petit peu plus large. Donc je m'étais aussi tenu de finir cette thèse, même si ça a mis 20 ans, pour des tas de raisons, dans le sens où d'abord j'ai eu des soucis avec mon premier directeur de thèse qui est parti de la fac, ensuite avec une deuxième avec qui ça l'a pas fait du tout. Il a fallu attendre quelques années pour qu'il y en ait un troisième, et puis ensuite il y en a eu un quatrième, puisque le troisième est parti à la retraite. Donc j'ai usé pas mal de directeurs de thèse pour en arriver là, mais si j'avais pas eu l'écho de la fac, je pense que j'aurais pas fait ce travail.
Parce qu'en même temps, on peut considérer que c'est aussi une espèce de revendication politique, presque, de soutenir un travail de bande sur la thèse, enfin un travail de thèse sur la bande dessinée à la Sorbonne. C'est quand même un acte fort, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui c'est quand même pas rien, quoi, d'avoir fait ça. Et puis c'est quelque chose qui a été assez médiatisé, quand même. Donc, je sais pas, est-ce que tu considères aussi ça? Bon, tu avais fait le livre Plate-bande comme une espèce de revendication politique. Là, est-ce que là, cette sous-sens de thèse-là, on peut considérer aussi que c'est quelque chose qui s'inscrit pleinement dans ton combat pour la légitimité de la bande dessinée et de la recherche sur la bande dessinée?
Bon, je sais pas si c'est vraiment un combat. On pourrait déjà en débattre. Je crois que le travail de légitimation de la bande dessinée, il a été largement effectué dans les générations précédentes. Mais moi, ce que j'ai cherché à défendre, c'est plutôt cette approche qui consiste à élargir un peu le champ de ce qu'on appelle bande dessinée et de le mettre en parallèle avec d'autres approches. Mais il y avait quand même effectivement un côté un petit peu subversif et un petit peu politique de faire une telle thèse à la Sorbonne sur aussi des aspects qui sont pas souvent évoqués, parce que bon, il y a le travail d'auteur, mais il y a aussi le travail d'éditeur que j'ai pas mal développé dans la thèse. Et donc finalement, il y a un mélange d'approches et de champs différents qui se retrouvent dans une thèse, ce qui n'est pas forcément très très fréquent, je crois. Et voilà.
Il y a même une dimension supplémentaire juste cette dualité auteur-éditeur, parce que tout le début parle aussi de ton passé de lecteur aussi. Il y a toute la constitution de ta découverte de la bande dessinée qui se met en place. Donc c'est aussi replacer ça aussi avec cette dimension de lecteur qui est aussi développée sur la fin, quand tu parles de ces auteurs qui ne sont pas reconnus comme étant de la bande dessinée, tout en utilisant après qu'on sache que ce soit un système ou un langage, c'est une autre question, mais d'utiliser quelque chose qui est visiblement de la bande dessinée quand même.
Oui, bah c'est vrai que j'ai tenu aussi à donner un peu les clés du travail en remontant assez loin dans mon approche de lecteur de bande dessinée, y compris jusqu'à l'enfance, ce qui était peut-être aussi quelque chose d'un peu neuf dans une thèse de doctorat, de commencer à parler de ces lectures d'enfance. Mais pour moi, il y avait quelques dimensions comme ça que je ne pouvais pas éluder, parce que pour moi, ça donnait des clés supplémentaires. Enfin, j'espère que ça ne faisait pas trop... Je vous raconte ma vie, et je commence par le jardin d'enfants. Mais ça me semblait intéressant d'expliquer que j'avais commencé à lire des bandes dessinées, alors que je ne savais même pas lire encore le langage articulé, grammatical, et... C'est pour ça que j'ai pu parler de première langue, de deuxième langue, en disant cette chose un peu provocante, peut-être, comme quoi la bande dessinée était ma première langue, puisque j'en lisais, même sans comprendre les textes, avant de déchiffrer ce qui était écrit dans les phylactères. Et donc, finalement, le dispositif avec séquentiel, avec images, choses à décrypter, à comprendre, qu'on peut finalement faire à demi-mot, même sans connaître le langage, puisque c'est quelque chose qu'on peut éprouver aussi en lisant une bande dessinée d'une autre langue, par exemple. Pardon, c'est moi. Si je lis une bande dessinée en finnois, je ne vais pas comprendre grand-chose, mais je vais quand même percevoir un déroulement, décrypter des choses qui se passent, et puis peut-être que ça va aussi me déclencher une lecture poétique supérieure à si ça avait été en français ou une langue que je maîtrise. Et donc, oui, l'aspect du lecteur et quel parallèle tu faisais avec la fin du...
Vers la fin, tu parles d'une auteure qui fait de la bande dessinée, qui est une plasticienne. Comment ?
Oui, je crois.
Ah oui. Bah ça c'est après c'est un peu différent dans l'élaboration du travail. Là c'est tout ce corpus de qui pour moi rentre dans l'histoire de la bande dessinée, mais qui n'est pas du tout reconnu par le contexte en place marchand ou institutionnel de la bande dessinée. Et donc j'ai essayé de donner pas mal d'exemples assez large. Effectivement, j'ai pas mal parlé de Charlotte Salomon, qui est une artiste juive allemande qui a été déportée et qui, avant d'être assassinée en camp de concentration, a fait un travail autobiographique, séquentiel, mélangeant texte et images. Il y a même des cloisonnements dans certaines images, donc... on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est pas reconnu comme étant une bande dessinée. Et les exemples sont nombreux. Et moi, je me permets d'aller même plus loin en montrant, par exemple, un rébus de Raymond Queneau, qui est complètement composé de pictogrammes, mais qui est narratif. Donc, ça se rapproche aussi un peu des bandes dessinées abstraites dont Thierry Grunstein a parlé hier, et qui, pour moi, sont tout à fait... compatible avec ma propre définition de la bande dessinée qui dépasse de loin justement la narration, le récit, l'histoire. Et je pense qu'on peut avoir... c'est tout aussi important d'avoir une émotion poétique en regardant une bande dessinée, qu'elle soit figurative ou abstraite, que d'avoir le plaisir de lire un déroulement narratif, quel qu'il soit.
C'est peut-être aussi ce qui fait l'importance de ta thèse, dans le sens où, par rapport à Grunstein, qu'on a vu en conférencière, donc, qui nous parlait de son dernier livre, Grunstein a une approche très systématique de la bande dessinée, très catégorique et très théorique, et toi, du coup, t'abordes la bande dessinée sous l'angle de la pratique plastique, mm-hmm. Et du coup, effectivement, ça t'amène à envisager une définition de la bande dessinée qui est beaucoup, beaucoup plus ouverte que celle que propose Grunsen avec son système de la solidarité iconique. Quoi. Donc, les exemples que tu proposes dans ton livre, notamment tout ce qui relève du volume, la pyramide, par exemple, des choses qui pour toi sont de la bande dessinée, mais se déploient dans l'espace en volume, pour Grunsen, par exemple, ça c'est pas forcément de la bande dessinée non plus. Mmh. Donc en fait, qu'est-ce que tu retiens du langage de la bande dessinée? Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un même des fresques égyptiennes peuvent être de la bande dessinée alors que pour d'autres, ça n'en sera pas. Qu'est-ce que tu retiens, en fait,
C'est des questions que je laisse un peu ouvertes à la fin de la thèse, mais en posant la question on va dire, un système peut fonctionner aussi bien dans l'espace feuilleté du livre que en volume sur les murs, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus aussi, qu'ils soient anciens ou contemporains. Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, est-ce que les définitions anciennes, justement de multicadre, de Grunsten, est-ce qu'elles restent pertinentes? Je pose par exemple la question de livres, parce que là on est dans l'espace feuilleté qui est important, puisque avec le doigt on change de page, et il existe toute une catégorie de bandes dessinées où il y a une case par page. Pour moi, c'est tourner la page qui forme la solidarité iconique, alors qu'elles ne sont pas disposées, juxtaposées, dans un hypercadre qui semble être la constitution première de la bande dessinée, selon Thierry Grunsten. Et c'est peut-être là où on n'est pas tout à fait d'accord, puisque pour moi, un livre qui a une case par page, qui est narratif, qui a un déroulement, est complètement de la bande dessinée. Et après, on peut aller plus loin en se demandant, finalement, est-ce que les différences entre un livre avec une case par page de bande dessinée et un déroulement séquentiel, et un livre qui présenterait une succession de dessins, mais il n'y aurait pas vraiment de suite narrative évidente, mais une parenté... j'ai pas d'exemple qui me vient à la tête, mais il y a beaucoup de livres d'images qui propose pas de déroulement séquentiel, mais qui propose une vision intérieure. On rentre dans l'imaginaire de l'auteur, il y a des choses récurrentes qui viennent, et finalement, la différence entre une vraie narration et un déroulement, et ça, moi je la mets presque en cause aussi, et là donc du coup, on réfute la notion de genre bande dessinée pour arriver à quelque chose de beaucoup plus large, qui peut se rentrer dans la catégorie du livre objet, du livre d'image. Et finalement, moi, plus ça va dans mon parcours et mon analyse des choses, et moins ça m'intéresse de dire ceci c'est de la bande dessinée, ça s'en est pas, et j'aime ci, j'aime pas ça. Pour moi, plus ça va, et plus c'est une approche complètement polymorphe de l'objet livre, qu'il soit constitué d'images, séquentielles ou pas, de textes.
Je pense que la beauté de Blutch est un exemple. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un ensemble de dessins de Blutch qui sont présentés sur. En plus, je crois qu'il y a que sur une page, donc c'est uniquement sur la page de droite. Et il y a pas de lien narratif évident entre les différents textes, enfin les différents textes, les différents dessins. Mais effectivement, à la lecture ou bien quand on s'y plonge, il y a des sortes de thématiques qui reviennent et il y a une sorte d'impression de un petit peu visqueuse, de malaise qui peut en ressortir. Il y a des choses qui sont très très étonnantes qui sortent de ce livre-là.
C'est un réseau d'impressions. On peut pas dire que ça fasse un sens. Séquentiel, mais à l'arrivée, on a un livre d'images qui se suivent, et puis une impression qui en sort, une émotion. Donc, oui, finalement, est-ce que ça a encore une pertinence de parler de bande dessinée pour Sunny Moon, et puis de pas de bande dessinée pour La Beauté? Je ne sais pas ce que Blutch en penserait lui-même.
Par rapport à ça, quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans l'ouvrage, et qui revient finalement aussi assez régulièrement dans votre... dans votre travail, que ce soit la topographie interne du M ou d'autres occurrences, il y a le rapport finalement à la, à la cartographie, dont j'avais parlé ici il y a 2 ans sur le thème du trauma et bande dessinée. Mais il y a quelque chose, par exemple, quand vous écrivez, j'ai créé mon propre désert, un paysage qui s'est imposé dès l'adolescence et n'appartient qu'à moi, mais nourri des déserts de Möbius, de Mandrika, j'ai comme laissé surgir une région nouvelle sur cette cartographie secrète où les univers sont à la fois extrêmement proches et totalement étanches entre eux. Est-ce que finalement, j'ai une impression en lisant votre travail que finalement la bande dessinée, ce serait finalement une sorte de travail cartographique avant d'être narratif, c'est de dresser une cartographie, d'apporter au travers de la séquence, au travers de l'évolution, plus qu'un récit, une façon de découvrir des régions nouvelles d'une carte. Mais je ne sais pas si...
J'ai pas vraiment développé ça, mais j'aime beaucoup cette idée. Ça me paraît effectivement très très cohérent. D'ailleurs, il y a François de Jonge a fait un travail sur la cartographie là, qui est à la librairie d'à côté. C'est pas le seul auteur. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui s'appuient sur la carte. Il y a des choses célèbres. Pensez à la carte de la Cile d'Avis. D'Hergé, ou plus proche de l'association, le Hicksville de Dylan O'Rourke, qui commence avec une carte fondamentale, parce que si on n'a pas cette carte, on comprend moins le récit, puisque tout ce qui se passe dans l'histoire occupe des régions différentes de l'île, et donc là, il y a la notion d'île aussi. Et, bon, ce livre est en plus très très important, puisqu'il fait une sorte de parabole sur la bande dessinée et en le mélangeant avec la cartographie et en plus la culture maori de Nouvelle-Zélande.
Et si je ne me trompe pas, le livre sur lequel il travaille depuis une éternité depuis s'appelle Atlas.
Mm-hmm, exact.
Ce qui est aussi très évocateur.
Il y a aussi à voir ici dans les exercices qui ont été faits. Zach Sally a proposé un exercice qui était une carte géante topographique, oui, sur lequel les auteurs peuvent rajouter des éléments d'histoire qui peuvent être indépendants ou se réunir, mais au-delà de l'aspect même visuel d'une carte, d'une façon beaucoup plus détachée, dans le rapport du texte au dessin, dans tout ce développement, il y a, j'ai l'impression, une façon de, au-delà de la carte, la bande dessinée en elle-même tend à finalement figurer un paysage ou une intérieur, ou pour figurer un espace mental quelque part, une cartographie d'un espace mental de façon beaucoup plus large que simplement la carte.
Ça c'est sûr, et puis c'est vrai que pour moi une carte c'est déjà une articulation de dessin et de texte. Et de légendes, finalement, les petites légendes en carré en bas d'une carte, ça peut pour moi être une sorte de bande dessinée, sans aucun problème. Et ça rejoint l'idée du rébus, des partitions dessinées aussi, dont j'ai parlé dans la thèse que Brice Catrin avait initiée à Sierre. C'est-à-dire demander à des dessinateurs qui ne connaissent pas le solfège de faire une partition abstraite, dessinée, figurative sur un papier à portée, et ensuite des musiciens improvisent sur ces partitions dessinées. Donc ça c'était une expérience très très intéressante de faire une sorte de... Moi j'avais fait pour le coup une vraie narration séquentielle sur du papier à portée. C'est dommage que j'ai pas de PowerPoint pour montrer ce dont je parle, mais je suis pas très très familier de ce genre d'outillage. Et donc, oui, pour moi, cartographie, partition dessinée, rébus, tout ça, c'est très 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 proche de l'essence même de la bande dessinée, c'est-à-dire première articulation du texte, de l'image et d'un déroulement. Et pour moi, ça me suffit comme définition. Après, si ça devient de la fiction, si ça devient... une sorte d'artisanat, plein de traditions avec des couleurs, et puis des impératifs commerciaux, marchands, le cartonné couleur et tout ça. Ça, c'est une voie possible, mais il y en a tellement d'autres. Et puis on retombe vite dans des standards aussi finalement. Le roman graphique est devenu lui aussi un standard. Il faut déjà de nouveau le casser pour essayer d'aller ailleurs et imaginer d'autres choses. Et effectivement, on peut même imaginer de sortir de l'objet livre pour mettre ça au mur, ou pour mettre ça dans une yourte. Ça, c'est une bande dessinée, constituée de plein de bandes dessinées.
Et puisqu'on parle de musique, il y a une autre cartographie qui est aussi l'Elog Groove Comics, qui est une cartographie d'un autre type, puisque c'est une cartographie, c'est plus un inventaire, mais qui devient aussi une sorte d'occasion de repartir dans un aspect qui est quand même très présent dans ton œuvre, qui est l'autobiographie. C'est une sorte de prétexte pour revenir sur l'autobiographie, puisque tu pars de disques, et petit à petit, ces disques évoquent des concerts, des galères. Il y a un concert dont tu as du mal à rentrer, c'est...
Oui, c'est effectivement partir d'un élément, enfin de plusieurs éléments, puisque c'est surtout l'objet vinyle dont je parle, le côté disque, et puis bon, bah, ce fameux Log Groove qui sont les sillons sans fin et qui donnent le titre aux deux volumes, mais ça j'en parle un petit peu, je dresse une sorte d'inventaire de certains que je connais, ou bien de pratiques très particulières de vinyle, c'est-à-dire mettre deux sillons parallèles, ou parfois sur un double album, par exemple, avoir trois faces enregistrées, la quatrième, c'est une gravure, c'est un dessin. Donc là aussi, dans l'aspect vinyle du disque noir à l'ancienne, il y a aussi une forme de cartographie, ça c'est sûr. Et bon, ce qui m'intéressait dans cette série, c'était de partir de ça pour effectivement parler à travers de la musique de tout et de rien, quoi.
Puisqu'on parle d'inventaire, il y a un aspect, moi, je trouve intéressant dans la bande dessinée et son double, c'est cet aspect de somme. C'est pas un bilan de ta trajectoire, hein. Au moins elle est parue, mais on n'est pas très loin, surtout dans la version qui a été donnée à ton jury. Puisque là, on a une version qui est expurgée, entre guillemets, de 300 ou 400 pages de bande dessinée qui ont été publiées par ailleurs, qui étaient de textes, qui étaient donnés dans la version que
Non, il n'y avait pas autant en plus, il y avait 100-150 pages d'annexes, du texte, notamment plate-bande, dont on parlait tout à l'heure, et puis pas mal de travaux de bande dessinée que j'ai pas remis dans cette version Libari, puisqu'ils étaient disponibles assez facilement par ailleurs et que ça aurait trop gonflé la pagination. Oui, c'est vrai que plus j'ai pensé dans ce travail, plus j'avais le sentiment et le besoin de devoir un peu essayer de tout y caser. Mais sans tomber dans le piège ma vie, mon œuvre, j'espère que j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que il y avait tellement d'aspects entre le travail éditorial, le travail autobiographique, le Loubapo, et puis tout ce que j'avais envie de dire sur justement ces frontières, que l'articulation de tout ça n'était pas évidente, effectivement. Mais il y a quand même des choses de mon parcours que j'ai laissé de côté, qui ne rentraient pas dedans.
Est-ce que au-delà de l'aspect, on va dire, purement de travail théorique ou de recherche, il y a une dimension proprement artistique dans cette thèse? Je pense notamment à un moment où tu montres une bande dessinée que tu as faite à un moment, qui te représente toi, puis tu présentes la reprise de ça, on se retrouve avec deux toi en même temps. Alors, je ne sais plus à combien ça s'arrête, peut-être qu'il y en a trois qui arrivent à un moment, et au moment où quand tu écris ta thèse, il y a un troisième ou un quatrième menu qui vient commenter tout ça. Est-ce que là finalement il y a encore une part de alors est-ce que c'est de l'autobiographie ou de l'autofiction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée là aussi?
Je pense, oui, puis c'est... Pour moi, c'était très important que finalement ce travail ait été très long à faire, parce que si je l'avais finalement fait avec le cursus normal, 5 ans après la maîtrise, le DEA, ça serait sorti quoi en 95, et ça s'appelait déjà la bande dessinée sans double, sauf que les doubles dont je parlais, l'autobiographie et Loubapo par exemple, puisque ça s'était déjà annoncé dans le mémoire de maîtrise comme des doubles possibles, bah, c'était pas du tout exploré. À peine par l'association, c'était que le début, et puis très peu par la bande dessinée en France encore à ce moment-là. Après, il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup de choses de très bien, de fait, et puis c'est même devenu une sorte de mode, et puis ça s'est un petit peu calcifié, comme dit Fabrice Nau. Et Loubapo, c'est pareil, ça n'était qu'au balbutiement, donc l'ouvrage de bande dessinée potentielle, l'équivalent de Loulipo pour la bande dessinée, qui a été créée au sein de l'association aussi. Ça n'était qu'au début, donc si j'avais fait cette thèse en temps et en heure, finalement... ça aurait été un truc programmatique, mais là, du coup, il y a 20 ans qui se sont passés avec beaucoup d'expériences et où on a pu voir ces expérimentations prendre leur essor, stagner un petit peu, voire entrer presque en régression. Du coup, il y a un aspect bilan qui se fait un peu malgré moi, et puis en plus de ça, ça intervient à une période où la maison d'édition, l'association arrivait un peu à un tournant de son histoire, moi-même dans ma pratique, peut-être que j'étais un tournant aussi, d'ailleurs ça se confirme. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté presque testamentaire là-dedans qui m'a un peu fait peur, mais bon, ben voilà, c'est fini.
En même temps, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être une archéologie à faire de ce livre, parce qu'il y a des éléments qui ont été, tu parles de la vision, ce qu'aurait pu être ce livre s'il était paru en 1995, avec des éléments pour l'autobiographie de Loubapo. On a parlé de plate-bande, dont une partie du discours est repris dedans. Ça, c'est quelque chose qui apparaît, si je me souviens bien, c'est fin 2004 ou début 2005 que sort le livre. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qui vient. Donc j'ai l'impression que tu as passé beaucoup de temps à découvrir de nouveaux doubles supplémentaires. Tu parles aussi à un moment de l'exposition Toy Comics, qui est quelque chose supplémentaire encore. Donc c'est comme si tu n'avais cessé de découvrir des double supplémentaire au fil du temps, et je trouve ça d'autant plus intéressant puisque tu commences avec tes lectures de l'enfance. Donc il y a aussi, au travers du parcours que tu traces aussi, on voit la bande dessinée grandir. On avait cette réflexion avec Nicolas ce matin, dans laquelle tu lis Spirou et puis c'est au moment où Franquin va commencer les idées noires, donc on est en train de grandir, puis va y avoir le début de Futuropolis, le début de tous les métal hurlants, l'écho des savanes, des choses comme ça. Donc petit à petit, il y a cette bande dessinée qui grandit, et toi tu grandis à côté, tu deviens auteur, tu participes à cette évolution-là. Et donc il y a cette inscription dans le temps aussi, et peut-être cette découverte successive de doubles supplémentaires.
Bah, oui, ça c'est clair qu'il y a vraiment un aspect processus, puis multiple. Et c'est vrai que ma génération, peut-être un peu plus encore celle qui était un peu avant moi, mais a vraiment eu l'impression d'évoluer, de grandir avec le médium lui-même. C'est vrai qu'on commence un peu avec l'enfance, ensuite on arrive à ce qu'on avait appelé la bande dessinée adulte à l'époque, mais qui était quand même encore très adolescente, et puis après à des vraies expériences plus adultes pour de bon, avec plus d'ambition, des nouveaux sujets, l'écriture de soi et des choses comme ça, travail sur la structure. Donc c'est vrai que faire partie de ce processus là permettait de mettre tout ça en perspective dans un travail étalé dans le temps, ça c'est sûr. Et c'est vrai que pour répondre à Fabien, il y a plusieurs mois qui se regardent les uns les autres et qui évoluent synchroniquement dans tout ça. Et là, ça redevient une partition et une cartographie aussi sur ce plan-là, puisque finalement, j'ai l'impression que tous ces mois sont toujours un peu là. J'ai pas eu l'impression de les abandonner, mais de les rajouter, de mettre des strates géologiques avec des petites croix, des petits ronds, comme quand on fait une coupe de sol dans un livre de géographie, géologie. Et c'est un peu... oui, ça fonctionne en sédimentation, mais selon si on creuse un peu ou beaucoup, ou très profondément, on a des choses différentes, mais en même temps, tout est toujours juxtaposé.
Et cette sédimentation arrive jusque sous la couverture, puisque
C'est le premier livre à l'association qui est paru sous le nom de Jean-Christophe Menu et pas de J.C. Menu. Ce qui visiblement t'a très surpris quand je te fais la remarque.
Oui, j'ai pas vraiment remarqué. Peut-être que c'est simplement que le travail universitaire impliqué qui est mon nom en entier.
Ça rajoute un double supplémentaire. C'est Jean-Christophe Menu qui s'intéresse au travail de J.C. Menu en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur.
Je n'avais pas remarqué, c'est possible, oui.
Ouais, revenir juste sur la question du rapport entre théorie et pratique dans un travail de thèse. On évoquait tout à l'heure une réflexion qui avait été faite hier, une question qui avait été posée à Grunstein, à savoir qu'en tant que praticien, on pouvait se passer finalement de produire un discours sur sa pratique parce qu'on pensait avoir tout dit dans sa pratique. La personne disait, tout ce que j'ai raconté, je le raconte dans mon travail, je n'ai pas besoin de faire un discours ou de décrire quelque chose pour ça. Est-ce que tu pourrais parler de ça un peu, enfin de ce rapport ambigu du côté des arts plastiques et de la bande dessinée qu'il existe entre le discours théorique et le travail pratique. Moi, en tant qu'enseignant, mes étudiants, souvent, c'est le problème qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ne voient absolument pas quoi raconter sur leur travail, puisqu'ils s'imaginent que tout est dit dans le boulot pratique. Enfin, ça me paraît être un espèce de fantasme romantique, comme quoi l'œuvre serait le double exact de la personne qui le produit.
C'est vrai que ce n'est pas si fréquent d'avoir cette dialectique pratique-théorie, et ça c'est le cursus art plastique qui m'a donné le goût à ça, ou qui me l'a révélé en tout cas, puisque il y a beaucoup d'autres choses dialectiques chez moi où j'aime bien toujours avancer un peu en crabe comme ça, faire le contraire de ce que j'ai fait hier, et puis avoir des éclairages différents. Donc moi ça me choque pas du tout, je suis plutôt choqué par l'inverse, c'est-à-dire quand il n'y en a pas de dialectique, c'est-à-dire les praticiens qui refusent la théorie en disant que ça ne sert à rien, ce qui me fait presque penser au vieux cliché, on ne va pas se prendre la tête à réfléchir, la BD c'est fait pour rigoler, etc. Et d'un autre côté, l'approche de réflexion universitaire, etc., mais qui est complètement coupée de la pratique et de la réalité. Et c'est ça qui était assez révolutionnaire dans le concept même des arts plastiques à l'université, puisqu'on peut rappeler que c'est né dans les années post-68 d'une sorte de réunion entre des enseignants des beaux-arts d'un côté et des enseignants de l'esthétique de l'autre, qui justement en avait assez que ce soit cloisonné et qui voulait faire circuler les deux, circuler la théorie et la pratique, et c'était un pari pas gagné d'avance et assez ambitieux et assez risqué. Et c'est dans cette sorte d'utopie-là que je suis arrivé et qui m'a bien convenu. Et c'est un peu grâce à ce cursus-là, parce que je n'étais pas prédisposé aux études spécialement, mais là je me suis senti bien. C'est un peu grâce à ça que je suis arrivé à cette dialectique permanente entre théorie et pratique et où j'arrive plus maintenant à raisonner autrement. Et c'est vrai que l'aspect éditorial est encore une troisième approche, puisque là on est dans l'industrie, on fait les livres, on est dans le collectif, on travaille avec les auteurs, avec des imprimeurs, avec tout un circuit. Et donc ça c'est encore une troisième voie.
Mais là-dessus j'aurais peut-être une question. Alors il y a à nouveau on est sur deux doubles sur l'aspect éditorial, effectivement quand tu publies pas le plat-bande qui peut être vu comme étant c'est à la fois un texte politique mais qui essaie aussi de placer qui peut être vu comme une théorie, enfin c'est une théorie qui est discutable dans le sens qu'elle peut être discutée. Je souscris à beaucoup de choses que tu mets dedans, mais là tu fais un texte théorique en étant éditeur dans la pratique. Or tout ce qui est je pense à l'éprouvette, aux trois numéros de l'éprouvette, paraissent à un moment où toi-même au niveau de la pratique du dessin, je crois que c'est un moment où tu dessines pratiquement plus, ou du moins tu publies quasiment plus. Je crois que le moment où tu reviens au dessin, c'était après, il y a eu on avait discuté, tu avais fait un 24 heures de la bande dessinée, où tu avais fait un truc du monde vérité, puis derrière il y a les logos Ouf Comics, c'était en 2009 je crois, où tu avais publié deux ou trois trucs, alors que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas publié. Est-ce qu'il y a vraiment eu, est-ce que tu n'as pas profité de moments où ta pratique était pour des raisons ou d'autres en berne pour t'intéresser à la théorie, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les deux moments?
C'est difficile à dire. Il n'y a pas eu tout de suite la distance de réflexion sur ce que je faisais en bande dessinée. Ça s'est venu petit à petit. Mais par contre, c'est surtout le travail éditorial qui m'a souvent pris beaucoup de temps et qui a fait que j'ai eu des périodes où je dessinais beaucoup moins, où j'étais moins dans la création. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu une période où j'ai pas mal publié et que depuis 2 ans, c'est redevenu un peu calme parce que l'éditorial a repris le dessus avec ses joies et ses malheurs. Et donc... ça reste toujours oui, une sorte de dialectique que je maîtrise pas beaucoup. Là, par exemple, je pourrais très bien être de nouveau dans le dessin, mais je me rends compte que je suis plus en train de réfléchir à ma future structure d'édition et à réfléchir à des projets avec des auteurs. Et que c'est... Mais je fais pas vraiment la distinction dans ma tête, en tout cas, entre faire des projets éditoriaux et des projets de création individuelle. L'édition, je le vis un peu comme une sorte de méta-création, mais c'est finalement pas des processus très très différents dans mon esprit. Et c'est parfois plus excitant de monter une structure avec des auteurs que d'être des jours durant devant sa table à dessin à faire quelque chose de longue haleine. D'ailleurs, je n'ai presque jamais rien fait de longue haleine. Quasiment tout ce que j'ai publié, c'est des fragments, des recueils, des choses courtes. Je n'ai presque jamais rien fait de longue haleine. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je suis vraiment fait pour le fragment. Et c'est aussi dû à cet emploi du temps contrarié et compliqué qui fait que j'ai presque toujours fait mes histoires courtes en état d'urgence pour un délai très très rapide où il faut tout d'un coup dégager une semaine, 2 semaines pour livrer l'histoire à cause d'impératifs techniques. Et voilà.
J'ai l'impression que cette nouvelle structure, je pense, d'après les informations que j'ai trouvées, ça sera finalement basé sur un des derniers chapitres de votre travail sur le décloisonnement ou sur les frontières. C'est finalement là, cette structure serait presque une réponse à ce que vous envisagez, à ce nouveau double envisagé.
Oui, tout à fait. Je pense que la future structure qui s'appellera l'Apocalypse est beaucoup plus proche de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et qui était annoncé, je pense, dans la revue L'Éprouvette. Toujours cette érosion progressive des frontières. Et que je développe un petit peu dans la troisième partie de la thèse, effectivement, c'est-à-dire, comme je disais un peu tout à l'heure, moi ça m'intéresse pas d'être un éditeur de BD supplémentaire après l'expérience de l'association. Si je veux aller un peu ailleurs et essayer de passer une étape un peu supplémentaire, là il faut aller vraiment vers le décloisonnement, le polymorphisme. Ce qu'on peut appeler transversalité, c'est ça qui va m'intéresser. C'est ça qui va m'intéresser parce qu'il y aura bien sûr de la bande dessinée, mais il y aura du livre de dessin, peut-être séquentiel, peut-être pas séquentiel. Il y aura du texte. Je serai ouvert à toute forme d'objets, livres, et même j'espère aussi à du disque vinyle. Et à chaque fois, ça sera sûrement très transversal aussi, parce que les disques vinyles que j'imagine, il y aura probablement presque toujours une partie graphique très importante dedans. Ce sera des livres disques. Donc là, je travaille un peu sur la forme de tout ça et donner une cohérence à tout ça, puisqu'il ne s'agit pas non plus que ce soit une espèce de fourre-tout, mais qu'il y ait une démarche dans tous ces objets qui vont être hétéroclites, mais qui chacun doivent trouver leur place dans un catalogue très vaste, et donc qui a à la fois une identité graphique, et puis qui va aussi, je pense, se baser sur... Là, le constat politique de la lutte de l'objet contre le tout numérique qui a déjà pas mal abîmé la musique et qui peut-être en voie d'abîmer le livre aussi. Et donc là, il va y avoir une sorte de constat qu'un objet disque, qu'un objet livre, qu'il soit bande dessinée, texte, finalement, ça se rapproche un peu d'une sorte de lutte générale pour continuer à apprécier l'objet, à toucher... des matières et à retarder un peu la dématérialisation totale de tout, quoi.
Pour un lecteur qui a donc un lecteur de ta thèse, mais qui a priori a souvent déjà lu tes livres, il y a une réactivation en fait de ces livres. En fait, quand on lit cette thèse, ça donne assez rapidement envie de les relire. Pas forcément pour en vérifier ce que tu dis, mais ça les réactive en fait, ça les réanime en fait, ça leur redonne une actualité. Je me demandais si toi, en dehors du, il me semble que tu l'évoques d'ailleurs à propos de livret de famille que tu n'as pas pu continuer. Il me semble que tu dis à un moment, en retravaillant là-dessus, je me dis que vraiment j'aurais eu envie de pouvoir continuer ça. Est-ce que avec ce livre, est-ce qu'il y a aussi une réactivation de ton envie d'auteur par rapport à certaines œuvres que tu représentes dans ce livre ?
C'est difficile à dire parce que là, j'ai plutôt eu l'impression de faire une sorte de bilan et de présenter des étapes de mon parcours un peu terminées, puisque c'est vrai que l'autobiographie est présente dans le livret de famille, j'étais censé continuer, mais ça s'est pas fait pour des tas de raisons, et c'était assez symptomatique de voir que à l'époque des Munes Comics de Cornelius, j'avais déjà fini le cycle en fait autobiographique avec le 5, et que j'étais parti sur un 6 qui aurait été une fiction complètement différente, et donc finalement quelque part j'avais aussi fini ce que j'avais à faire à ce moment précis avec l'autobiographie. Alors même si c'est parfois des cycles qui peuvent durer pas mal d'années, comme la topographie ça a duré plus de 12 ou 13 ans, le Mont Vérité j'ai plus 7 ou 8 ans, il y a des choses qui me semblent terminées. Bon, Médère, je l'ai tué par exemple, enfin, j'ai pas, tout comme le fait que je sois porté sur le fragment, j'aime pas non plus refaire deux fois la même chose, et j'aime bien aller à fond au bout d'une forme et d'un propos. Bon, Médère, c'était très très particulier, très violent, mais ça pouvait pas durer 10 livres. C'est pour ça que j'ai tué le personnage. Et puis, tout est un peu comme ça. C'est un livre par-ci, un livre par-là, où j'essaie d'aller au bout d'un processus et j'ai pas forcément envie de creuser. Alors, même si le cycle du Mont Vérité, j'ai continué un petit peu à faire des histoires courtes, notamment les deux pattes de mouche que j'ai fait pendant les 24 heures. Et c'est un univers que je pourrais facilement continuer à faire vivre, mais j'ai vraiment de la réticence à continuer des choses. Mais là aussi, c'est très très mystérieux, parce que en faisant la thèse, par exemple, ça m'a aussi poussé à faire quelques inédits spécialement pour la thèse, basés sur des principes qui étaient plus anciens, notamment pardon, il y a un chat qui se balade. L'aspect du détournement, par exemple, j'avais fait ça il y a très longtemps en refaisant des Gaston Lagaffe à Malvé. J'avais fait cette série sur la couverture d'essai de boule de cristal d'Hergé, et donc en travaillant sur ce chapitre là dans la thèse, ça m'a donné envie de faire une autre déclinaison sur une planche de Crazy Cat, et là d'essayer d'analyser d'un point de vue iconographique classique ce que j'avais pu faire. Donc, en faisant la thèse, oui, ça m'a quand même donné des envies de reprendre certains principes que j'avais commencé puis un peu oubliés. Ouais. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, c'est un peu plus difficile de se remettre à faire d'autres choses. Mais bon, il y a eu un contexte particulier aussi.
Tu parles de fragments. Moi, je reviens sur l'idée de somme. C'est vrai qu'il y a, c'est assez marquant de voir quelque chose qui s'appelle la bande dessinée son double. Hein. Mais qui vise aussi à unifier tous les fragments qui représentent ton activité. Donc, tu parlais de l'activité sur l'objet, l'activité sur... Donc on a le lecteur, l'éditeur, l'auteur, l'objet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as... c'était voulu ? Bon, je comprends que ça correspond aussi aux contraintes ou à ce qu'on attend d'une thèse en art plastique, mais il y a aussi, on sent à certains moments, une envie de s'expliquer ou d'apporter de la lumière sur des choses qui peut-être auraient été mal comprises, ou il y a tout le passage, Frédéric évoquait la pyramide, il y a tout un passage sur la pyramide qui est un objet qui a été vu un petit peu, mais dans lequel tu y apportes énormément
d'explication sur quel était le but, comment elle était conçue, etc. Il y a vraiment une sorte de guide de lecture, une sorte de dire de manière de nous inviter à te comprendre par ce biais de ça, qui dépasse, j'ai l'impression, les simples contraintes de la thèse.
Oui, peut-être. En même temps, effectivement, il y a des aspects que j'ai dû développer parce que qui n'avaient jamais été vraiment formulés. Bon, l'objet de la pyramide, par exemple, qui a été une sorte de monument qui représentait en volume une certaine période de l'histoire de l'association, qui a longtemps été dans le local de l'association. C'est une façon de d'évoquer une maison d'édition de bande dessinée sans montrer de bande dessinée, mais en l'évoquant à travers une série de pictogrammes et une sorte d'histoire en volume et même sonore. Mais comme ça n'avait jamais été vraiment formulé, j'en ai profité un petit peu pour le faire ici, surtout que ça servait un de mes chapitres, donc la bande dessinée dans l'espace. Mais encore une fois, j'ai pas non plus voulu faire une sorte de travail de mémoire à expliquer tout ce que j'avais fait dans ma vie. Il fallait que ça rentre quand même dans le plan de la thèse. Et la pyramide, ça me semblait rentrer dedans, puisque ça correspondait à ce chapitre sur la bande dessinée dans l'espace, où je parle aussi de l'aspect muséal de la bande dessinée, de d'autres expériences de bande dessinée en trois dimensions, et d'articulation aussi, de performance, des choses comme ça. Donc, comme la pyramide, c'était un moment où je participais à ces réflexions-là en faisant cette chose, ça me semblait naturel que ça se passe là, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir voulu tout expliquer, tout livrer. Bon, il y a encore beaucoup de parts d'ombre dans tout ça. D'ailleurs, ça aurait été ingérable de toute façon d'aller plus loin que cette matière-là déjà.
Est-ce que vous avez des questions? Il ne faut pas être timide. Non.
Juste encore une petite chose. Enfin, en tout cas, quand on fait la synthèse un petit peu de tout ce qui a été écrit sur la bande dessinée, que ce soit par les théoriciens, les historiens ou les auteurs, en fait, on peut dégager différentes pistes. Alors bon, la plus connue, celle de Grandstein, qui est exclusivement théorique et qui aborde la bande dessinée comme un système qui cherche à définir et à expliquer comment ça fonctionne. Il y a la perspective de Smulderen, donc, qui est historique et qui essaie d'expliquer comment est née la bande dessinée à partir effectivement de tout le dessin humoristique et le travail sur la chronophotographie. Il y a le travail d'Harry Morgan en fait sur les interactions entre les contraintes éditoriales, sur la pratique des auteurs, et puis il y a toi en fait qui parle en tant qu'auteur de ta propre pratique, et c'est peut-être la piste que tu proposes toi qui est la moins abordée par les auteurs, du coup, parce que à part dans les prouvettes où on trouvait beaucoup de textes théoriques d'auteurs, en fait, à part cet endroit-là, à part dans les prouvettes, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de choses. Enfin, les auteurs ne se penchent pas beaucoup sur leur propre pratique. Tu étais un des seuls à le faire, je crois.
C'est encore la même constatation que faire les deux, essayer de réfléchir et d'être dans la pratique, c'est très rare, effectivement. Mais ça se répand un petit peu. Effectivement, dans les prouvettes, on a pu avoir des réflexions de Jørgen Gerner ou des textes de divers auteurs sur leur pratique, alors que quand j'avais fait une revue qui s'appelait Labo 20 ans avant, c'était quasiment impossible de faire écrire les auteurs et les faire réfléchir sur leur pratique, même ceux qui avaient une pratique réflexive, mais l'aspect écrire sur, se mettre un peu à distance pour utiliser un autre langage, donc pour parler de son langage, puisque là, si on écrit sur, on est dans deux langages différents, mais il y a aussi le moyen de faire de la théorie sur la bande dessinée en bande dessinée, comme l'a fait Scott McCloud, ou comme le fait aussi très bien Jørgen Gerner, à mon avis, avec le Contre la bande dessinée, qui est pour moi assez exemplaire, puisqu'il soulève des vraies problématiques sur le microcosme industriel de la BD. Mais uniquement en utilisant de la bande dessinée, et encore là, est-ce que c'en est, parce qu'il n'y a pas de cases, c'est plutôt dialectique, là encore, entre un pictogramme et puis une forme de texte, mais qui relève plus de l'inventaire. Et uniquement avec ces moyens très minimalistes, il dresse un constat du contexte bande dessinée presque plus fort que si on essayait de le faire par écrit. Donc, oui, moi, j'aimerais beaucoup que ça se répande un petit peu, qu'il y ait plus du dialectique chez les auteurs, avec un aspect de réflexion, qu'il soit en texte ou en bande dessinée ou en autre chose.
Parce que, en fait, aussi, ta thèse se lit très bien. Enfin, c'est-à-dire que d'habitude, le travail de thèse est rebutant pour le lecteur parce qu'on sait que ça va être quelque chose de très spécialisé qui s'adresse à des spécialistes. Or, toi, ta thèse d'art plastique, elle est vraiment tout public, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en théorie de la bande dessinée pour aborder ça. Enfin, même sans théorie de la bande dessinée, on lit ça très bien. C'est très agréable à lire. Et puis, en même temps, tu arrives à parfaitement articuler, en fait, ta pratique éditoriale et ta pratique d'auteur avec ta réflexion théorique, ce qui n'est pas souvent le cas dans le travail de recherche en art plastique, puisque le piège du travail de recherche en art plastique, c'est soit de se plonger dans sa propre subjectivité, d'analyser que son propre travail sans jamais prendre du recul, soit de faire un espèce de faux travail d'esthétique ou de réflexion théorique totalement déconnecté de la pratique. Et toi, t'arrives, enfin, c'est vraiment, moi j'ai vraiment été sous le charme, enfin, c'est un bon pavé, quoi, mais ça se lit vraiment, c'est très agréable, c'est bien écrit, enfin, ça fonctionne bien, quoi. Je trouve que, enfin, bon, je jette un peu des fleurs, mais pour avoir lu d'autres travaux de thèse en art plastique qui n'étaient pas toujours très convaincants parce que l'articulation ne fonctionnait pas, là du coup ça fonctionne très bien, quoi. Enfin, on est pris, on suit, et puis l'introduction sur l'enfance par rapport au langage de la bande dessinée, ta manière d'avoir appris à lire la bande dessinée, d'avoir le dessin comme première langue, en fait, quoi. Et ouais, c'est quelque chose d'important, je trouve, aussi de rappeler qu'effectivement, dans l'enfance, on dessine beaucoup. Et qu'après, ça se perd, quoi. Ça se perd parce qu'au collège, par exemple, les gamins veulent faire ressemblant, veulent faire comme lui, comme l'autre. C'est pas bien. Et ils perdent cette espèce de naïveté. Enfin, tu l'as dit, tu l'as perdu toi-même à un moment, quoi, quand tu as commencé à essayer de suivre l'espèce de mode d'emploi d'une vraie bande dessinée avec un crayonné, tout ça.
C'est vrai, mais la plupart des enfants qui dessinent tous à la base s'arrêtent aussi à l'adolescence. On se demande pourquoi, parce que le dessin est déconsidéré. Ça fait bébé, donc tous les petits ados vont se mettre à faire du skateboard et des choses comme ça, plus viriles, au lieu de dessiner. Sauf quelques-uns qui insistent. Alors, est-ce qu'il y a des raisons psychologiques? Je ne sais pas, mais pourquoi il y en a quelques-uns qui continuent et d'autres non. En tout cas, merci pour la forme. C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout envie de faire quelque chose de jargonesque. D'ailleurs, j'avais un peu peur que ce ne soit pas assez référencé ou articulé de façon universitaire par rapport à Paris 1. Mais au contraire, Pierre Fresneau-Deruel, mon directeur, était très anti-jargon aussi. Et donc, a bien préféré que je m'exprime clairement sans forcément vouloir dire mon mot sur tous les champs intellectuels qu'il est d'usage de citer à tire la rigueur dans un peu trop de travaux universitaires. Ouais.
Par rapport à ça, moi, j'ai une réaction. En fait, donc c'était bien d'expliquer au début de cette discussion ce qui était attendu. Et ce qui n'était pas très connu d'une thèse en art plastique, effectivement, de parler de sa pratique avant d'élargir ça. Justement, moi, ce que j'ai vu autour de ce livre, qui effectivement est assez et agréable à lire, on a aussi publié un compte rendu de la. Enfin, sur du neuf, il y a eu un compte rendu de ta soutenance qui a été publié, sur lequel il y a eu beaucoup de réactions un petit peu négatives, comme il y a pu y en avoir sur le livre par rapport au fait justement de beaucoup parler de. En fait, on se retrouve à quelque chose qui est pas du jargon, donc qui est accessible, mais qui quand même se plie à des règles attendues et dans lesquelles brusquement on se retrouvera en clash entre ce qui est standard dans le cadre de l'appareil universitaire, c'est-à-dire la manière dont on décerne les félicitations du jury à l'unanimité, même s'il y a des critiques auparavant. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir j'ai assisté plusieurs fois, j'ai même fait partie d'un jury de thèse. Et c'est vrai que la manière dont on nous explique comment fonctionnent les différentes mentions qui sont données,
En gros, s'il n'y a pas de mention, c'est que le travail est extrêmement médiocre. Il y a des gros problèmes. Si on met juste passable, c'est que c'est, il y a vraiment des gros problèmes, mais bon, c'est pas complètement médiocre. Et petit à petit, enfin, il y a toute une, c'est très codifié et c'est soit on fait partie du sérail, on sait comment la décrypter, soit non. Et là, en fait, il y a eu un je dirais pas un problème, mais disons que cet objet de thèse s'est retrouvé justement confluent entre l'université avec ses codes et un grand public qui était venu. Et moi, j'ai vu dans les réactions sur l'article qui a été publié beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qui était perçu, par rapport au retour qu'avaient fait les lecteurs de la thèse, avec la mention, et même, je pense, effectivement, comme on le voit, le livre qui peut être vu comme étant une sorte de ma vie, mon œuvre, alors que c'est l'exercice aussi qu'il demande.
Oui, ça c'est... Il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas non plus les obligations du cursus art plastique qui imposent de toute façon de partir de sa propre pratique pour en faire un travail. Donc moi, à un moment donné, ça m'a un petit peu intimidé aussi de devoir parler de moi comme ça, et j'ai presque voulu passer en esthétique pour faire un travail plus théorique sur la bande dessinée, plus extérieur, ce que je fais plus dans la troisième partie de cette thèse-là. Mais en fait, quand on a commencé en art plastique, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà. Et bon, quant à ceux qui ne connaissent pas trop les us et les coutumes de ce que c'est qu'une thèse de doctorat, bah, ça n'empêche pas de lire le livre, je pense. Mais je crois quand même que si la thèse s'apprête à être juste passable, le directeur de recherche le signale quand même à l'étudiant, et pour qu'il passe pas tout de suite sa thèse, qu'il l'enrichisse un petit peu. Parce que
j'aurais une dernière question justement sur pourquoi l'avoir publié aussi vite, hein? Enfin, dans le sens où généralement quand on fait une thèse, on la soutient éventuellement, quand on en fait un livre, on passe du temps à la retravailler, et toi, ouais, tu soutiens ta thèse c'est vers la mi-janvier, si je me souviens bien, et le livre est non, c'est décembre,
le 8 janvier.
Le 8 janvier, et donc le livre est tu l'as, la version papier, tu l'as au Festival d'Angoulême trois semaines plus tard.
Oui, ben là, il y avait vraiment... Parce qu'il y avait quand même ce côté somme. J'avais quand même traîné ça des années. Et puis, quasiment depuis 2 ans, c'était ma principale activité. J'avais envie de m'en débarrasser au plus vite. Et donc, j'ai demandé à Pierre Fréneau d'Hervel s'il voyait un inconvénient à ce que ça sorte très rapidement. Il m'a dit que non, du moment où ça sortait après la soutenance, ça allait. Avant la soutenance, ça aurait été un peu embêtant. Mais j'ai quand même dit pendant la soutenance que le livre était sous presse, et j'ai remarqué un léger silence parmi le jury. Et donc oui, j'ai tenu à la publier telle qu'elle aussi, sans la retravailler du tout. Puisque dès le départ, de toute façon, je l'ai conçu comme un livre. Je l'ai conçu à la fois, bon, avec les codes de la thèse de doctorat, mais c'était avant tout un livre pour moi, et donc j'avais pas tellement de raison d'attendre plus longtemps, puisque je voulais pas la retravailler et que je voulais que ce soit accessible au plus vite pour que moi je puisse passer à autre chose dans mon esprit aussi.
Il y a une autre chose qui est peut-être un peu curieuse, en fait, c'est que je l'ai déjà posé la question à Harry Morgan quand il avait présenté lui sa thèse, à savoir que en fait en face de lui il y avait personne, il n'était pas jugé par ses pairs puisque en fait il était un des seuls spécialistes dans l'université, enfin dans le contexte universitaire où il présentait ça. Il connaissait beaucoup mieux son objet que les gens qui l'examinaient. Ça a été un peu, je pense, la même chose pour toi. Bon, il y avait Grunstein, mais il n'y a pas non plus une, on va dire, c'est peut-être tant mieux, une académie, enfin en tous les cas un collège constitué de savants sur ce domaine. Qu'est-ce que toi tu as retiré, justement, tu parlais des retours, qu'est-ce que tu as retiré de ce travail quand même, dont on te fait des retours de l'extérieur, qu'est-ce que c'était que ces retours, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans?
Bah, moi j'ai surtout travaillé avec mon directeur, donc Pierre Frenet-Derhul, qui lui connaissait assez bien le sujet, puisque c'était un des premiers à avoir écrit sur la question dans les débuts des années 70 sous l'angle sémiologique. Et puis il y est revenu pas mal d'années après en écrivant notamment sur RG. Donc on avait un dialogue assez constructif. Dans le jury, il y avait également Thierry Grunstein, donc qui connaît bien le sujet, même si on n'était pas toujours d'accord. Et il y avait René Scherrer, donc, que j'avais choisi lui plus pour l'aspect politique et utopique, puisque en grand anarchiste spécialiste de Fourier, je me disais que la partie un peu utopique, sous l'angle éditorial, cette histoire à la fois collective, pouvait faire écho, et donc ça a été le cas, et ça l'a intéressé. Mais, il y avait Jacques Cohen qui était mon précédent directeur de recherche et qui connaissait aussi pas mal la bande dessinée, notamment pour avoir fait l'UV de bande dessinée pratique à Paris 1. Puis il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui s'appelait Emmanuel Souchier, lui qui était plus sous l'angle communication. Et pendant la soutenance, ça se passe comme ça. Le soutenant développe son projet. Ensuite, chaque membre du jury, donc là il y en avait cinq, fait un petit speech et puis pose des questions. Et voilà, ça dure 4 heures, c'est un peu éprouvant quand même. Mais en fait, après, quand le livre est sorti, j'ai pas eu tant de retours que ça. J'ai l'impression que c'est pas bon, il y a peut-être pas mal de gens qui l'ont pas fini aussi, parce que il y a pas mal de pages, mais j'ai eu moins d'une dizaine de réactions constructives qui développaient un petit peu les choses et qui pouvaient me faire rebondir, même si j'ai pas l'intention de faire un truc comme ça prochainement, et jamais de la vie d'ailleurs.
Il t'a fallu quoi, 20 ans pour celui-là, on a rendez-vous dans 20 ans, c'est ça?
Oh, je sais pas. On peut dire ça comme ça, peut-être.
Bon, s'il n'y a pas de questions à la salle, je pense, si.
Quelqu'un comme Moebius a pas mal écrit, effectivement, et donné beaucoup d'interviews. Et ça, c'est sûr que quand les auteurs s'expriment à travers des articles ou des interviews, c'est aussi important que des gens extérieurs, et c'est même plus important, puisque souvent, ils renseignent sur leur pratique. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il y en a peu qui l'ont poussé ça à fond, quoi. Aux États-Unis, il y a Will Eisner. Ça manque un petit peu donc de cette dialectique-là. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des entretiens passionnants. Je pense à celui avec Chris Ware qui est sorti récemment. Ça renseigne bien plus sur la pratique de la bande dessinée que n'importe quelle théorie complètement extérieure au sujet, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
D'autres questions ou réactions ? Non. Bon, ben, je vous remercie de votre attention et puis merci Jean-Christophe.
Ben, de rien.
Et nous allons prendre sans doute 5 minutes de break et puis on enchaîne ensuite avec la troisième et dernière causerie de ce pierre-feuille-ciseau avec notre contingent américain. Voilà. À tout de suite. Merci.